Chaîné, on reprendra des questions. Restez avec nous. Hein? Ouais, mais c'est les spotlights, il faut vous habituer. Et donc maintenant, nous allons enchaîner avec Sandrine Saunier qui va nous parler des troubles. Alors, le TSA, c'est les troubles du spectre autistique. C'est important puisque les acronymes sont nombreux au sein des troubles du neurodéveloppement, l'extension des parcours de soins et de la psychiatrie. Et psychiatre et coordinatrice du centre ressources en Auvergne-Rhône-Alpes. Ou en Rhône-Alpes, peut-être.
Bonsoir. Donc on peut dire bonsoir maintenant, il est 6 heures. Vous êtes toujours réveillé? Okay. Non, mais ça fait rien. Je veux bien le jouer. Et puis, ça fait rien, je ferai des grands jeux. C'est là, c'est le. Bon, ben, je n'ai pas droit au pointeur, mais ce n'est pas grave. Donc, merci beaucoup à l'ADESME de m'avoir invité et surtout d'avoir choisi l'autisme comme peut-être un paradigme du changement ou d'un changement qui est en cours, d'un changement que moi je qualifierais de plutôt assez réussi, même s'il n'est pas abouti partout, puisque vous savez qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour les personnes avec TSA. Et voilà, je dirais que le mouvement et la. Vous m'entendez parce que j'entends moins, moins. Vous avez un Larsen, vous? Oui, moi aussi, il y a un problème. C'est pas bon. C'est peut-être, il faut peut-être éteindre le. Ok. Bon, ben, ça fait rien. Donc, je n'ai pas de pointeur et il y a du Larsen. C'est pas grave. Voilà, donc je voulais surtout vous parler de ce modèle de l'autisme. Alors, comme ça doit être un modèle, je me permettrai quand même de vous redéfinir c'est quoi les TSA au sein du neurodéveloppement. Ah, il faut parler dans les deux. Ça va mieux? Non, c'est pas mieux. Si, c'est mieux, ok. Je vous parlerai aussi de la plasticité cérébrale parce qu'une bonne partie des choix sont quand même basés sur l'idée qu'il y a une plasticité cérébrale. Même si, au niveau des niveaux de preuve, on est quand même encore un peu limité. Mais je ne vais pas aller trop dans le détail de ce modèle-là. Le dépistage précoce qui illustre aussi le changement dans les pratiques en psychiatrie et notamment l'inclusion des territoires dans la pratique de diagnostic. Et puis, je parlerai aussi beaucoup du parcours, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte, puisque vous savez que les TSA vont concerner la vie entière. Voilà, quand même un petit point sur des soins qui sont spécialisés, à la fois en somatique et en psychiatrie, parce qu'on nécessite encore quand même des soins très spécialisés pour ce public. C'est bon? Vous êtes sûr que le « i » ne vous gêne pas? Parce que moi, il me gêne. Vous n'avez pas de Larsen? Ah, ben, c'est moi qu'on est. Un tout petit peu. Ok, ok, non, des particularités sensorielles parfois, au-delà de l'autisme. Bon, allez, je vais essayer de rattraper le retard. C'est parti. Donc, juste un petit point sur les TSA. Les TSA, vous le savez pour certains, mais pas tout le monde le sait, déficit dans le développement des relations, de la communication non verbale et dans la réciprocité socio-émotionnelle. Donc ça, c'est compliqué dans, justement, une société où le fait d'être un animal social qui peut être à l'aise dans le savoir-être va devoir évoluer. Hein. Donc, eux, ils sont déjà, dans une forme de handicap d'emblée. Ils vont en plus avoir des problèmes de mouvements stéréotypés qui sont très stigmatisants. Parfois, c'est le discours qui est stéréotypé, des intérêts restreints et très figés, des routines, des rituels, et bien sûr, des difficultés avec les stimulations sensorielles. Par exemple, le fait d'avoir le spot dans la figure, un Larsen dans les oreilles, et d'être debout. Enfin, voilà, chacun ses particularités. Mais moi, je m'adapte, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Les personnes avec TSA ont des profils très variés. Il va y avoir des personnes avec un bon niveau d'efficience intellectuelle, mais dans pratiquement la moitié des cas, ils auront aussi une déficience intellectuelle associée, ce qui leur complique un petit peu la vie quand il s'agit de trouver des ressources pour s'adapter. Certains vont avoir un très bon langage, d'autres pas de langage, et on a toutes les formes de langage qui peuvent exister pour les personnes avec TSA, et ça va évoluer au cours de leur vie. Hein, on peut être très bien un autiste sans langage, devenir un adulte autiste avec un bon langage. Ils vont aussi parfois avoir un autre trouble développemental, et je dirais même que très fréquemment, ils vont aussi avoir un autre trouble neurodéveloppemental. Et puis, ils peuvent aussi avoir des maladies génétiques, des troubles psychiatriques, et voire même parfois une catatonie, ce qui nécessitera à ce moment-là une hospitalisation. Donc, vous voyez, on parle d'une définition assez simple, mais avec toutes ces pathologies associées, toutes ces caractéristiques qui vont impacter leur développement, il va y avoir des profils très, très variés. D'où le fait que certaines personnes avec autisme vont avoir des trajectoires très variées. Alors, ce qui est très important, on va parler de TSA quand il y a un retentissement cliniquement significatif. J'insiste parce qu'on a de plus en plus de demandes d'adultes qui disent peut-être que j'ai un profil TSA, Asperger, etc., j'ai des particularités. Ce qui est important aussi, c'est ce retentissement. C'est ça aussi qui participera à la définition de la pathologie, pas seulement la présence de symptômes. Et ce retentissement, il va bien sûr agir sur la vie sociale, la scolarité ou la vie professionnelle. Le côté cliniquement significatif, là, il y a une part quand même à la fois objective sur des symptômes, objective qu'on pourra qualifier par des échelles fonctionnelles, mais aussi subjectif, hein, ce qui va devoir amener parfois un arbitrage sur oui ou non le diagnostic de TSA. La prévalence, vous allez trouver des chiffres très variables. Dans les médias, on aime bien mettre le chiffre de 1 sur 59, parce que c'est le chiffre qui est très alarmiste, qui provient d'études aux États-Unis, sur un observatoire qui se fait sur des centaines de milliers de dossiers dans différents États aux États-Unis. Mais on ne peut pas les généraliser, bien sûr, à l'ensemble de la population mondiale. Donc l'HAS, elle retient 1 sur 100. Non, l'HAS retient 1 sur 132, mais dans les politiques publiques de l'autisme, et notamment la stratégie nationale, ils ont retenu 1 sur 100, qui est une espèce de compromis autour de différentes études. Bon, 1 sur 100, c'est pratique, en plus, ça marque les esprits. Mais on voit quand même cette tendance à l'augmentation. Et donc, il faut l'avoir en tête pour la suite des parcours. Oui, j'avais dit 4 garçons pour une fille. Et un rappel important, c'est que le TSA est un trouble du neurodéveloppement qui affecte la vie entière. Et ça doit être un petit peu ce qui va nous guider dès qu'on pense dépistage précoce ou intervention précoce, c'est qu'on est en train d'intervenir sur de futurs adultes, et des futurs adultes qu'on veut bien sûr le plus autonome possible. D'où le fait qu'on est dans un modèle de neurodéveloppement. Je suis un peu obligée de vous définir le neurodéveloppement, parce que c'est un peu la base de l'évolution des TSA. Donc les troubles du neurodéveloppement, ça correspond à un défaut de développement d'une ou plusieurs compétences cognitives, ou certains diraient fonctions cérébrales, lors du développement psychomoteur et affectif de l'enfant. Le neurodéveloppement, finalement, ne s'arrêtera pas en même temps à l'enfance. Il faut le penser comme un continuum. Alors, dans les troubles du neurodéveloppement, on va retrouver les handicaps intellectuels ou la déficience intellectuelle. Les troubles de la communication, c'est un peu tous les retards de langage, les troubles sévères du langage. Les troubles du spectre de l'autisme, ceux dont je vous parle actuellement. Les TADA, c'est-à-dire l'hyperactivité. Les troubles des apprentissages, tous les fameux 10, multi-10. Et les troubles moteurs, ça c'est plutôt ce qu'on appelle les dyspraxies dans le jargon. Ils peuvent être associés, et c'est, comme je vous le disais, fréquemment, une personne avec TSA peut cumuler déficience intellectuelle et retard de langage. Alors, puisque je parle de développement du cerveau ou de modèle neurodéveloppemental, je fais un petit retour, ce sera la seule diapo un peu pénible et un peu douloureuse de la soirée, c'est qu'effectivement le développement du cerveau, ça commence pendant la vie embryonnaire, et ça va se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Vous inquiétez pas, vous êtes en train de développer des connexions pour comprendre ce que vous voyez. Ça va être médié par plusieurs facteurs, bien sûr la génétique et des facteurs environnementaux. Et certains facteurs environnementaux ont peut-être, c'est aussi en cours de recherche, un impact qui peut être parfois négatif sur le développement du cerveau. Et il va être... ça fait peur, celle-ci. Non ? Le développement du cerveau peut être affecté par différents phénomènes, en tout cas au niveau de différents phénomènes. Ça peut être au niveau de la migration cellulaire, au niveau de la connexion entre différentes zones du cerveau, ou simplement à un niveau vraiment beaucoup plus cellulaire, au niveau du fonctionnement synaptique. Donc, ces trajectoires développementales neurobiologiques du développement du cerveau vont avoir un impact sur le développement des grandes fonctions cérébrales. Et ces grandes fonctions dans l'autisme, bien sûr, c'est la cognition sociale, le langage et la communication, le développement moteur. Et ces trajectoires vont être altérées dans les TSA. Donc je me suis permis cette petite intro parce que la suite est importante. Voilà. C'est que si le TSA est un trouble du neurodéveloppement avec à la base peut-être un problème neurobiologique au niveau du cerveau, on peut comprendre que ce serait une des raisons pour lesquelles l'enfant ne s'engage pas dans les interactions. Il n'est pas acteur de la scène sociale. Or, on a besoin que les enfants soient acteurs de la scène sociale, qu'ils viennent vers nous pour qu'ensuite on les stimule. Et bien sûr, ça va altérer leur développement neuronal, parce que si on ne stimule pas les connexions, c'est un peu simpliste hein, quand même comme modèle, mais bon, on se permet d'être un peu simpliste à 6 heures. Si on ne développe pas ces connexions cérébrales, on va avoir un problème et un retentissement développemental. Donc on est dans une espèce de boucle dans laquelle de laquelle on veut sortir. Et ça, c'est le modèle de la plasticité cérébrale. On se dit qu'on peut agir sur ce développement cérébral. Il y a quelques éléments de preuve, mais je ne vous les détaille pas aujourd'hui. Et c'est pourquoi on va stimuler les interactions sociales. Et donc, il y a tout un tas de programmes et d'interventions précoces qui ont cette vocation, développer les interactions sociales très, très tôt, le plus tôt possible chez les enfants et chez les enfants avec TSA. Alors, des politiques publiques, là c'était un petit peu le volet définition, il y a des politiques publiques qui ont essayé finalement, en se basant beaucoup sur ce modèle, de mettre en place le dépistage précoce, l'idée qu'il va falloir faire des interventions précoces et pas n'importe lesquelles, on ne développe pas les interactions sociales, la manière dont on va les travailler, c'est pas n'importe comment, c'est pas intuitif. Il y a des programmes qui ont été développés, certains sont plus ou moins bien évalués, pour essayer de mettre en place ces interactions sociales spécifiques et adaptées aux enfants autistes. Donc il y a eu des politiques, des recommandations, des plans autisme pour aboutir à une évolution qui doit normalement être organisée au sein de la stratégie nationale. La stratégie nationale, ce n'est pas un quatrième plan autisme, c'est en gros comment on n'a pas mis en place les trois précédents plans et qu'est-ce qu'on va faire pour la mettre en place. Il n'y a rien de vraiment nouveau dans la stratégie nationale. C'est plutôt un modèle d'organisation. Alors, je ne la détaille pas. Par contre, pour moi, les facteurs d'évolution, comme on l'a vu, c'est les connaissances scientifiques, mais ça a peu d'impact sur le changement des pratiques. On a beau dire aux personnes, mais c'est un modèle du neurodéveloppement, il y a eu tel ou tel élément de preuve pour pouvoir prendre en charge les personnes avec autisme, ça n'a pas beaucoup d'impact. La politique publique a un peu d'impact, puisqu'elle organise finalement ou elle finance ses programmes d'intervention et elle organise bien sûr le parcours du patient. Ce qui a le plus d'impact finalement, à mon avis, enfin un facteur important, ce sont les parents et les personnes avec TSA. Et comme il est 6 heures, je me permets une petite vidéo pour vous mobiliser. Voilà, vous avez été sage. Si ça passe, parce que des fois j'annonce des vidéos et elles n'arrivent pas.
Self-stimulation does seem to eventually calm the nervous system. It can be a way to compensate for not being held. Overstimulation hurts. You know, people talking too much at once, it can cause us to panic.
How did you get cured?
Well, I'm not cured. I'll always be autistic. My mother refused to believe that I wouldn't speak. And when I learned to speak, she made me go to school. My mother pushed me to become self-sufficient. I worked summers at my aunt's ranch, went to boarding school and college. Those things were uncomfortable for me at first, but they helped me to open doors to new worlds.
Excuse me, please, but we want to hear everything.
Yes.
Tell us, please.
Voilà. Ça, c'est finalement bien plus... Enfin, on peut faire tous les PowerPoints qu'on veut. Une minute, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Ça, c'est dans les années 80. C'est un extrait du film Temple Grandin qui retrace la vie de cet autiste célèbre. Et bon, le film est un peu... Vous avez vu violon et gros plan. Bon, il y a tous les vieux ressorts du cinéma. Mais j'ai gardé cette image parce que pour moi, c'est vraiment le moment où les choses changent. C'est quand... Elle prend le micro. Et ça, c'est dans les années 80 aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé un peu plus tard en France. C'est quand les patients prennent le micro pour dire « Moi, voilà ce qui se passe pour moi. Arrêtez, vous les experts, de dire ce qui se passe pour moi. » Et c'est ce moment-là qui permet aux connaissances scientifiques et aux politiques publiques d'aller vers le changement. S'il n'y a pas ce phénomène-là, si on ne leur donne pas le micro ou s'ils ne le prennent pas, hein, pour le coup, là, elle le prend, je pense qu'on n'y arrivera pas. On n'arrive pas à aller vers le changement. Mais bon, là, pour le coup, il y a les associations de parents et de familles et les associations d'autistes qui sont bien mobilisées. Et je pense que c'est pour ça que dans l'autisme, il y a peut-être un petit temps d'avance par rapport à d'autres problématiques psychiatriques. C'est qu'ils ont vraiment pris le micro et parce qu'ils ne se sont pas beaucoup posé la question de est-ce que ça va être bien le changement. Pour eux, le changement, c'était absolument nécessaire, c'était vital. Il fallait absolument que ça change. Leur situation était quand même assez catastrophique. Voilà, donc voilà, c'était un peu pour illustrer cette place-là des patients. Alors, politique publique, je vous en ai parlé, je reviens à ça. Ça va être par exemple le diagnostic précoce. Là, ce qu'on voit du diagnostic précoce, c'est qu'il y a des professionnels de petite enfance, des médecins de première ligne, pédiatres généralistes et des plateformes d'orientation, donc ça c'est un choix politique, qui vont permettre normalement ce diagnostic précoce avec l'orientation des familles vers des professionnels libéraux ou des équipes de CAMS ou de CMP. Et là, ça c'était un rôle de la psychiatrie ou du CMP qui faisait la prévention, le diagnostic et finalement... ce rôle est complètement délégué maintenant aux acteurs du territoire, de proximité, et pas forcément des acteurs de la psychiatrie. Il faut encore que ça s'organise, hein. Ça a commencé à s'organiser dans certaines régions, c'est loin d'être généralisé. Alors je reviens à ma petite diapo, on est bien sur un trouble vie entière, et on veut diagnostiquer le petit bébé à quatre pattes. Avant, je disais que le petit bébé à quatre pattes, il n'était pas vraiment là, parce qu'on ne les dépistait pas, on ne les diagnostiquait pas. Et au mieux, c'était plutôt vers 5-6 ans que les personnes avaient un diagnostic d'autisme à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on repérait qu'ils avaient un problème de développement, mais on ne nommait pas forcément l'autisme avant 5-6 ans. Et souvent, le parcours était très hospitalier. Les enfants n'allaient pas vraiment à l'école. Et ils ressortaient de l'hôpital un jour, où il reste 5 minutes, il n'y a pas de problème. Pour finalement souvent être pris dans des établissements médico-sociaux. Et je parle d'établissements, pas de services. À l'époque, il y avait très très peu de services et c'est surtout l'établissement médico-social qui prenait le relais à la fin, par exemple, des hôpitaux de jour à 12 ans ou parfois à l'âge adulte. Et puis, un certain nombre de personnes avec TSA ne sortaient pas de l'hôpital pour tout un tas de raisons et un certain nombre sont encore à l'hôpital et nécessitent encore des soins importants. Hein, je ne dis pas le contraire. Ce modèle a évolué. Maintenant, on fait le diagnostic dès l'âge de 18 mois et les neuropédiatres aussi, les généticiens sont impliqués dans cette partie diagnostique, pas seulement les psychiatres. Et puis l'enfant va bénéficier de différents types de soutiens dans le médico-social ou en CMP. Il y a encore des acteurs du sanitaire qui interviennent, mais ça va être selon, je dirais, les disponibilités, selon les ressources locales. Ce n'est pas encore complètement figé et établi. Là, on est vraiment sur des partenariats. Donc, je les ai cités, hein, les CAMS, les PCPE. Alors, il y a plein de nouveaux acronymes qui sont sortis. PCPE, ça vous dit quelque chose? C'est nouveau, hein, c'est les pôles de compétences et de prestations externalisées. Vraiment l'acronyme le plus horrible que j'ai jamais vu. J'ai mis au moins 6 mois à le retenir. Il y a beaucoup de réseaux de libéraux aussi qui se mettent en place. Ça, c'est nouveau sur le champ de l'autisme. Avant, les libéraux, ils s'y frottaient pas trop. Et un truc nouveau, c'est la socialisation en crèche avec des interventions précoces qui se font en crèche. Donc, on a vraiment maintenant des intervenants qui viennent mettre en place les programmes d'intervention précoce au sein des crèches. Et puis, ces intervenants vont permettre aussi une scolarisation. Alors, les intervenants, je n'ai pas forcément précisé qui ils étaient. Mais l'enfant, il ne va plus à l'hôpital, il rentre d'abord à l'école. Et l'école a créé plein de petits dispositifs qui ne sont malheureusement pas assez généralisés, mais par exemple les unités d'enseignement maternel. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non, vous savez ? Ouais, bon, bah, si vous savez, je passe. Les ULIS, les AESH, il y a tout un tas de dispositifs qui vont permettre que l'enfant puisse trouver à la fois un apport pédagogique, mais aussi un apport de rééducation et de stimulation des différentes fonctions cognitives. Mais surtout, ce qu'il va trouver à l'école, c'est les copains. Et ça nous intéresse beaucoup. On a besoin qu'il soit dans un bain social, on a besoin qu'il soit avec des enfants ordinaires et qu'il puisse évoluer et développer ses compétences sociales in vivo, je dirais. Voilà, bien sûr, certains enfants vont encore avoir besoin d'établissements médico-sociaux, pas forcément parce qu'ils ne peuvent pas complètement accéder à cette mode de socialisation, c'est, je pense, parce que parfois le système n'est pas encore bien organisé pour l'accueil de tous les enfants et toutes les problématiques TSA. Et puis, bien sûr, cet enfant vit à la maison. C'est très rare que les enfants soient en établissement médico-sociaux à 4-5 ans, c'est plutôt un peu plus tard. Et à la maison, il va y avoir sa famille Et sa famille aussi va être un des acteurs très importants par rapport à un modèle où la famille était un peu exclue du soin et elle subissait les décisions qui étaient prises par les professionnels. Donc, on retrouve nos acteurs médico-sociaux et surtout, ils vont aussi intervenir dans les lieux de loisirs. Maintenant, les écoles de musique, les clubs de sport sont sollicités pour accueillir les enfants TSA et ils ouvrent volontiers leurs portes. Et on voit le dynamisme associatif, justement, qui permet cette socialisation. Le répit aussi, il y a des structures de répit pour les personnes avec TSA. Et l'aide aux aidants, qui sont des programmes qui permettent de soutenir la famille dans leur compréhension des TSA et qui permettront aussi parfois d'appliquer des programmes à la maison. Ça va dépendre. Quand je dis aide aux aidants, c'est de manière très très globale. Je ne le détaille pas plus ici. Par contre, diversité des acteurs, on a vu, complexité, ça veut dire une nécessité d'une coordination. Et là, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent autour de la coordination des parcours. L'ado va passer à l'âge adulte, il y a toute cette problématique des transitions puisqu'on est sur un parcours plus complexe, plus diversifié. Les acteurs vont changer parce qu'on reste encore assez cloisonné sur les âges. Le bilan diagnostique se fait parfois à l'âge adulte et à l'adolescence, donc on retrouve toujours la nécessité des interventions en psychiatrie et en sanitaire. Un certain nombre d'adultes vont devoir vivre en établissement médico-social. C'est pour ça que j'ai mis à la fois le domicile, mais il y a aussi l'établissement médico-social qui a un rôle important aussi chez l'adulte. Et la famille, souvent, s'est appauvrie. On a souvent les papas qui disparaissent. Et parfois, la famille s'agrandit parce qu'on a aussi des couples de personnes avec TSA qui vont avoir des enfants. Donc, il reste de toute façon une famille ou des aidants à prendre en compte. Et les intervenants sociaux, médico-sociaux, sanitaires, restent importants. Les acronymes changent parce que les acteurs ont changé. Mais il va falloir qu'ils travaillent sur la vie quotidienne, et on insiste beaucoup pour que ce travail sur la vie quotidienne, il commence bien avant l'âge adulte. C'est pas au moment où on devient adulte qu'il faut apprendre à s'habiller. Il faut apprendre à s'habiller, bien sûr, dès qu'on peut, le plus tôt possible. Il va y avoir la question de l'emploi, du travail, des activités, mais ça va être bien traité au cours des 3 jours. Et la question des loisirs, qui reste, bien sûr, important, un bon facteur de socialisation. Voilà, pour certaines personnes avec TSA, on travaille aussi les habiletés sociales, sur des groupes, ça c'est tout un champ de compétences qui émerge, qui n'est pas encore très bien évalué, on ne sait pas encore bien l'impact de ce travail groupal sur les habiletés sociales, sur la vie réelle. Et puis pour certains, bien sûr, on aura aussi la question des relations affectives et sexuelles. Et là, il y a aussi tout un de nouveaux métiers qui apparaissent pour accompagner les personnes vers cette vie affective. Voilà, alors, avant, si je caricature, et je reste très simpliste, on était peut-être sur un modèle assez hospitalo-centré, bien sûr, avec les ESMS qui prenaient parfois le relais. Maintenant, on est quand même beaucoup plus centré sur la personne, la vie sociale, la vie quotidienne dans la cité, mais certains auront encore de toute façon besoin de l'hôpital et d'établissement. Alors, les soins somatiques, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça reste un des facteurs à mettre en place. Pour le moment, l'accès aux soins somatiques n'est pas bon du tout pour toutes les personnes avec TSA et pour les malades psychiques en général. Et les soins psychiatriques ont développé finalement toute une panoplie d'aides et d'outils qui sont pas forcément bien généralisés, mais qui complètent parfaitement cette exigence d'insertion ou de socialisation dans la cité. Donc voilà, j'ai mis juste une liste. Donc finalement, l'hôpital, on l'attend beaucoup en soutien des ESMS, en tout cas c'est une vraie demande des ESMS, pour des situations complexes. On l'attend aussi pour des soins psychiatriques, parce que je vous le disais, on peut être TSA avec soins psychiatriques, mais surtout on l'attend au niveau de l'innovation, de la recherche et de la formation des professionnels. Et voilà, c'était rapide. Ouais.
Merci beaucoup. Donc, remarques, questions sur l'autre intervention également.
Ça, c'est pour dire que ce n'était pas un parcours linéaire, mais voilà.
Moi, je voulais, Pierre-Michel, faire 2 remarques très rapides. Parce que les 2 sujets, on n'a pas le sentiment spontanément qu'ils se parlent quand on regarde le programme. Ce qu'on est en train de voir actuellement, parce qu'après, il faut penser ce qui se passe sur nos territoires et nos établissements, c'est qu'il faut absolument repenser la question de l'accès au logement dans nos établissements, puisque les politiques, là où ça a commencé de bouger, sont en train de complètement basculer. Point barre. Et deuxièmement, sur l'autisme, où c'est déjà joué, Donc là, on est aussi sur une perspective qui était rétro, pas uniquement prospective, puisque c'est déjà joué pour nous. Enfin, tout au moins, c'est mon sentiment, voire ma certitude. On s'est noyé dans un débat byzantin qui, finalement, n'est peut-être même pas clinique sur l'origine des troubles. Et la psychiatrie sait très bien se noyer dans des débats byzantins. Elle a oublié que le monde était en train de tourner autour d'elle. Et pour dire les choses comme je pense qu'on a à peu près, sauf ce qui reste en bas dans la dernière slide, celle d'avant, on a à peu près disparu du paysage et la messe est sans doute dite. Alors évitons pour la pédopsychiatrie de commettre la même erreur pour ce qui reste dans nos établissements de la pédopsychiatrie. Et en particulier, ne ratons pas, on l'évoquera demain, le tournant du neurodéveloppement.
Merci beaucoup. Des remarques, une réponse? Non, d'autres remarques, questions?